Bien, bon, on va commencer. Bon, il s'agit donc de d'un nouveau sefer. Comment c'est le sefer Dvarim? Ce sefer a un statut différent des autres. Les quatre premiers sfarim, c'est Hachem
Écoutez
qui
le
parle
cri. Les
par le
glaçons
biais
demain, ça y est.
de
Écoutez,
Moshe.
écoutez les chiens.
Mais
Écoutez,
non,
ça.
mais non.
Voulez fermer le micro si vous avez des choses à dire en dehors du cours. Donc, les quatre premiers sfarim, c'est Hachem qui parle par l'entremise de Moshe, par la bouche de Moshe. Et Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Bien sûr, il est inspiré, mais c'est lui qui parle. Et a priori, il s'agit ici essentiellement, disons, au sens large du terme, d'un testament de Moshe Rabbeinu, sur la quasi-totalité du Sefer Dvarim. Le problème, c'est que le nom du Sefer Dvarim, il a un autre nom qui s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, donc dans Mishneh, le problème, c'est comment est-ce qu'on va interpréter ce mot Mishneh Torah. Rashi et d'autres disent que ça s'appelle Mishneh Torah parce que il faut entendre ici comme une forme de répétition de la Torah. C'est-à-dire qu'on répète des choses qui ont été vues dans les autres Sfarim. Là-dessus, le Ramban dit que ça colle pas du tout, parce qu'il y a plein de nouvelles choses, et que s'il s'agit simplement de répéter, alors il y a des choses qui sont répétées, par exemple dans le Sefer Shemot, certaines mitzvot sont répétées deux fois, donc c'est pas une caractéristique du Sefer Dvarim que de répéter. Le Netziv, il va expliquer différemment, il va expliquer que il y a dans Mishneh Torah une spécificité, c'est que les versets de Mishneh Torah sont très très souvent susceptibles d'une double interprétation. Donc c'est un enrichissement, quelque chose, c'est pas du tout une répétition, c'est qu'il y a un sens enrichi, si on peut parler comme ça, des versets du Sefer Dvarim. Et ce serait pour ça que ça s'appelle Mishneh Torah, parce que la Torah, elle, ici, les versets ont une certaine ambiguïté. On peut les lire c'est un enrichissement en réalité, on peut les lire de plusieurs manières. Et on verra quelques exemples de la façon dont apprend les, enfin, il étudie, oui, il apprend les sfarim, les psukim du Sefer Dvarim. Bien, donc ici on a un nouveau Sefer, un Sefer qu'on va voir exactement comment ça se présente. Alors, on va commencer par le début. Alors, le premier passouk, c'est Ele Hadvarim, Asher Diber Moshe de Kol Israël. Celles-ci, donc, sont les paroles que Moshe a parlé, il a dites au Béné Israël, vers Yarden, de l'autre côté, c'est-à-dire, en fait, avant de franchir le Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Barava, dans la Arava, Plein, Moul Souf, Ben Paran, Ben Tophel, Belavan, Ve Chatzerot, Ve Dizahav. Qu'est-ce que c'est que cette énumération de ce qui semble être des lieux? On a l'air de dire ici que, voilà, Moshe Rabbeinu, il a parlé au Bnei Israël dans des lieux bien précis. Et voilà la liste de ces lieux. Et Rashi dit que Il ramène en fait des Razal qui disent que on a cherché ces lieux dans le Tanakh et on n'a pas trouvé du tout que on pouvait localiser certains de ces termes-là qui sont utilisés ne correspondent pas du tout à des lieux. Donc on ne peut pas expliquer ça en termes de localisation des endroits où Moshe aurait parlé. Et donc on va expliquer différemment. Ils vont expliquer en disant qu'il s'agit de situations lors desquelles, ou ce sont des situations, qui, des termes qui font référence à des moments où le clan Israël a mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Alors, le premier mot, elé, c'est vraiment elé, c'est-à-dire, il n'y a pas de vav, comme par exemple au début de certaines parchiotes où on dit ve elé à Mishpatim, par exemple, où le vav ferait la liaison avec ce qu'il y a avant. Ici, c'est elé, donc c'est une rupture avec ce qu'il y avait avant. Bon, c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'il s'agit de quelque chose de radicalement nouveau ici. Alors, Rashi dit que le fichein divrei tochachot, ce sont des paroles de remontrance. Donc, ce que Moshe ici raconte au Bnei Israël, il leur fait des remontrances, c'est-à-dire il leur montre à nouveau les endroits où ils ont fauté. Et a priori, quand on fait des remontrances à quelqu'un, c'est pour que la personne fasse tshuva. C'est pas simplement pour énumérer les endroits où ils se sont mal conduits, mais pour qu'ils essaient de réparer ce qu'on peut réparer dans cette situation-là.
Je te mets là-bas plutôt.
Et donc, voilà, c'est Torahot. Donc ici, Rashi dit, ce sont tous les lieux où les Bnei Israël ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est simplement des endroits où ils ont mis en colère, mais on ne nous dit pas ce qu'ils ont fait en particulier dans chacun de ces endroits. Le Rashi dit, c'est seulement Iskiran Beremez. Il les a mentionnés, ces lieux, ces endroits où ils ont mis Hachem en colère, de façon allusive seulement. Pourquoi ? Mipnei Kvodan shel Israël. À cause du kavod d'Ebnei Israël. Il s'adresse ici à la totalité du clan Israël et il leur fait des remontrances, mais il ne veut pas les mettre mal à l'aise. Donc, il laisse chacun comprendre ce qu'il est capable de comprendre dans ce qu'on lui dit ici. Donc, c'est quand même des lieux, pour Rashi, ce sont des lieux où ils ont mis Hachem en colère, mais l'objection de Ramban et d'autres qui disent, mais on ne connaît pas de lieu géographique correspondant à chacun de ces endroits. Certains d'entre eux, bien sûr, d'autres, non. Donc, ils contestent. Le Ramban dit que c'est autre chose. Il n'est donc pas d'accord avec Rashi là-dessus, mais nous, on va s'en tenir d'abord pour l'instant avec ce que dit Rashi. Alors, le texte dit que Moshe Rabbeinu a parlé El Kol Israël. Il a parlé à la totalité du clan Israël. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il parle à la totalité ? C'est important, semble-t-il, de parler à la totalité d'Israël. Parce qu'évidemment, Ilu Ochiach Miktsatan, s'il n'avait fait des remontrances qu'à une partie du clan Israël, les autres, ceux qui étaient Bachouk pendant ce temps-là, ceux qui étaient ailleurs pendant ce temps-là, ils auraient dit, vous étiez là, vous avez entendu Ben Amram vous faire toutes ces remontrances et vous n'avez rien répondu. Si nous avions été là, on lui aurait répondu à tout ce qu'il dit. Donc pour que ce ne soit pas possible, Moshe Rabbeinu a convoqué tout le monde. Kulchem, vous êtes tous là. Et donc, tout celui qui aurait un argument à faire valoir, une réponse, une excuse à faire valoir, qu'il le fasse. Ensuite, on nous dit que Moshe Rabbeinu a parlé Bamidbar. Bamidbar, Rashi dit, mais lo Bamidbar ayu. Et là, Be'arvot Moav. Il n'était pas du tout dans le désert à ce moment-là. Il était déjà Be'arvot Moav. On est à plus 40, n'est-ce pas? On est à la veille de la disparition de Moshe Rabbeinu, à la veille de l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. On est dans la 40e année. Alors pourquoi est-ce que c'est marqué Bamidbar? Et là, Bishvil, Mashi, Chissou, Bamidbar, c'est parce que ça fait référence ici au fait qu'ils ont mis en colère Hachem dans le désert. Shamrou, Mi, Iten, Moutenu, Bamidbar, où ils ont dit aux Bnei Israël, ils ont dit en se révoltant contre Moshe, si seulement on avait pu mourir dans le désert, etc. Ba'arava, c'est Bishvil Arava. C'est-à-dire, Shechatu Bual Peor. Bashitim, c'est un des derniers événements qui sont rapportés dans le Sefer Bamidbar, c'est le fait que les Bnei Israël se sont cassés la figure avec les princesses Midianites et Moabites, vers Avot Moab. Mol Souf, Al Marché Hamrou Bayam. C'est-à-dire, ils ont dit, Amibli en Kvarim be Mitzrayim, Vechen ben Osamin Ayam, Shenemar, Vayamru, Alayam, Bayam, Biamsouf. Donc en fait, Rashi va énumérer chaque fois toutes les fautes qui ont été commises. Les Bnei Israël, à chaque fois, ont énormément de mal. Dans toutes les situations où il y a une petite difficulté, ils se révoltent. Il faut quand même se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui viennent de sortir d'Égypte, qui viennent de 210 ans d'esclavage, enfin, peut-être pas d'esclavage complet, mais 210 ans où ils étaient en Égypte. C'était quasiment les Égyptiens. Et tout à coup, ils sont sortis. C'est vrai qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais en fait, on a un peu l'impression qu'ils sont sans arrêt à la limite de leurs possibilités. Et souvent, ça ne tient pas. Ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas parce qu'effectivement, c'était vraiment extrêmement difficile. Donc, on nous dit quand Moshe Rabbeinu leur dit, voilà, le chemin aurait dû prendre 11 jours. Et là, maintenant, ça nous a pris 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris 40 ans? C'est à cause de vous, à cause de votre conduite. Et il y a Acharei Akoto et Sichon Melech Haemori, après avoir vaincu Sichon, Cheshbon et Og Melech Habashan. Voilà, donc Moshe Rabbeinu leur parle ici, Be'er Yarden, Be'eretz Moab, Ho'il Moshe Be'er et Torah Azot, les morts. Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer cette Torah. Il explique la Torah, il explique donc il y a un biour de la Torah, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu explique la Torah? C'est quoi le Be'eret HaTorah? Alors, Rashi dit, c'est un chazal, Be'eret HaTorah Be'shivim Lashon, Piresh Lahem. Moshe Rabbeinu explique la Torah au Bnei Israël en 70 langues. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? 70 langues, c'est pour qui? Pour les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël ne parlent pas 70 langues. À quoi est-ce que ça peut se... Comment est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce que ça a comme importance? Et c'est ça la notion de bière. Alors, bien sûr, il y aura des explications qui vont être que Moshe Rabbeinu a effectivement, disons, il a exprimé la Torah dans toutes les langues pour que tous les peuples puissent l'entendre. Mais on peut aussi dire que, ici, c'est une chose très importante, que pour vraiment entendre le sens de la Torah, il faut l'entendre avec la richesse que va donner à la Torah le fait de la dire dans toutes sortes de langues. On comprend bien que quand vous donnez la Torah avec d'autres langues, si vous voulez, alors ça n'existe pas une traduction parfaite. Donc cette traduction de la Torah, cette expression de la Torah dans cette langue-là, elle va donner des variations. Elle va permettre d'exprimer les choses de toutes sortes de façons. Donc l'idée, c'est que la Torah, en tant que le modèle à partir duquel le monde a été créé, etc., la Torah, elle doit, si vous voulez, être entendue de toutes les manières dont elle peut être entendue. Donc, la rendre dans toutes les langues, c'est lui donner toute sa richesse, lui permettre à cette Torah, à la Torah, effectivement, d'être exprimée de toutes les façons possibles, en quelque sorte. C'est ça le Shivim Lashon. Et alors, Moshe leur dit, au Bnei Israël, il leur dit, Hashem Elokeinu diber eleinu bechorev, lemor. Hashem nous a parlé au Sinaï. Il a dit, Rav Lachem, Shevet Bahar Azé. Il nous a dit que c'est assez, vous êtes resté assez longtemps. C'est-à-dire, vous êtes resté assez longtemps au Sinaï, maintenant il faut bouger. Rashi dit, bon, il faut l'entendre Kipchuto, mais il y a des midrashim, et il en importe un, qui dit, Arve gdoula lachem, vesachar ale shivatchem be'aram azé. Cette expérience du Sinaï vous a donné de la grandeur, et vous avez le mérite d'être resté là. Donc, c'est un lieu, c'est une espèce de yeshiva, vous avez travaillé ce qui vous a été donné. Et vous avez fait un système Mishkan, Menorah, Kelim, Kibaltem Torah. Alors, ensuite, vous avez Manitem Lachem Sanhedrin, Sare Alafim, etc., Sare Meot. Ok, ça veut dire, on a l'impression que Moshe leur dit, vous avez tous les éléments maintenant. Tous les éléments, maintenant il s'agit d'avancer. Vous avez travaillé, vous avez mis en place toutes les structures nécessaires. Maintenant, il faut avancer, on n'est pas censé rester dans le désert à perpète. On doit avancer. Donc il leur dit, effectivement, mettez-vous en marche. Il leur dit, Pnu, Usu Lachem, avancez, allez vers le Haram Emori, etc., dans la Rava, Shvela, etc., en direction de Eretz Haknaani. Et voilà, c'est cette terre qui est devant vous, là, je vous la donne. Il faut que vous veniez entrer dans cette terre, faites-en un héritage, ça veut dire il faut que vous l'acquériez au point que ça devienne un patrimoine quasiment. Parce que c'est effectivement ce qu'Hachem avait juré à vos ancêtres, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, de vous le donner, vous, ses descendants, leurs descendants. Et puis à un moment donné, va Omar Alechem, va Etaï, à ce moment-là, je vous ai dit, le Ochal va dire cet Etrem, je ne peux plus tout seul vous porter. Hashem Elokechem, Irba Etrem, Vintrem, Ayom, Kvrola Shamaim, la Rov, Hashem vous a multiplié, très nombreux, trop nombreux. Hashem Elokechem, Yosef Alechem, Kachem, Elef Permim, qu'Hachem vous en donne, vous multiplie encore plus, vous bénisse, comme il vous l'a dit. Mais Echa Esa Levadi, Torachem, Asachem, Rivchem. Comment pourrais-je seul porter vos disputes, etc. Avou Lachem, Anashim, Chachamim, Unvonim, Viduim, Leshiftechem. Donnez-vous des gens, des sages, des gens que les chefs de tribu connaissent, et je vais les mettre à votre tête. Et vous avez dit, c'est bien, bien. Tova dava asher dibarta la'asot. Ici, beaucoup de mefarshim, souvent des mefarshim un peu chassidiques, qui disent qu'en en réalité, mon cher Rabbeinu, quand il a dit tout ça, ce qu'il aurait voulu entendre, c'est que les Bnei Israël disent non. Nous, on veut rester avec toi. On veut pas changer, on veut rester avec toi. Et les Bnei Israël n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, ok, c'est bon. C'est une déception pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait besoin, en quelque sorte, de l'accord, de la demande. C'était aussi une façon pour Moshe Rabbeinu d'essayer d'obtenir qu'Hachem le laisse entrer en Eretz Israël. Hachem lui a dit, tu n'entreras pas. Mais Moshe Rabbeinu aurait voulu que les Bnei Israël prennent sa défense, en quelque sorte. Que les Bnei Israël... je vais arriver à la régler. Et Moshe Rabbeinu n'a pas obtenu ça de ces Bnei Israël. Ils n'ont pas compris du tout que Moshe Rabbeinu leur demandait d'intervenir et que à ce moment-là, ce serait une demande du peuple tout entier pour que Moshe reste avec eux, que comme ça, de la sorte, ils puissent entrer en Eretz Israël avec eux. Mais ils n'ont rien compris. Ils ont dit, c'est bien, d'accord, on est d'accord. Tov adavar asher dibarta la'asot. Alors, ok, dans ce cas-là, effectivement, j'ai mis en place les structures, dit Moshe Rabbeinu. Et puis, on est effectivement parti du Chorev, du Sinaï, On a traversé le désert, on a eu affaire avec tous ceux qui se sont opposés à nous, fait des guerres. Et puis, Moshé rapporte à ce moment-là l'épisode des Meraglim, ça j'en ai parlé beaucoup cette année, la version de Moshé. Vous vous souvenez, ce n'est pas du tout la même version que celle qu'on a lue dans Shlach Lecha. Bon, alors ça c'est le désastre. Les Bnei Israël sont condamnés à mort à ce moment-là de nouveau. Et ensuite, mon cher Rabbeinu continue de décrire les pérégrinations des Bnei Israël. Avec des indications sur la façon dont on doit traiter les peuples face auxquels on va se trouver, etc. Et puis, donc, l'intronisation, si on peut parler comme ça, de Yoshua comme successeur de Moshé Rabbeinu. Donc, dans cette première paracha, il y a donc des tochachot de la part de Moshé Rabbeinu et les tochachot vont continuer. Alors, les Chachamim font remarquer que Moshé Rabbeinu a attendu la fin de sa vie pour faire ses tochachot au Bnei Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas fait les tochachot au fur et à mesure des fautes qu'ils ont faites? Pourquoi il attend maintenant la fin de sa vie et il passe en revue tous les échecs, etc. Comment se fait-il que tout à coup... Alors, les Chachamim répondent que Moshé Rabbeinu a pris modèle sur Yaakov Avinu. Comme vous savez, Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il a convoqué ses enfants et il leur a donné ce que nous, on appelle les brachot. En d'autres termes, il a dit à chacun ce que lui, leur père, pensait qu'il devait faire. Il a dit à chacun quelle était sa place dans l'économie générale du clan Israël. Alors, le mot brachot qu'on utilise pour Yaakov Avinu, ce que Yaakov Avinu a donné, c'est un mot qui peut faire tiquer un peu parce que, par exemple, à Reuven, ce qu'Hachem lui a dit, c'est tu es mon premier-né, donc tu aurais dû être à la fois roi, tu aurais dû être Kohen Gadol, en prêtre, et tu aurais dû avoir la double part qu'un premier-né doit avoir. Et Yaakov Avinu lui a tout enlevé. La royauté, il l'a donnée à Yehuda, la Kehuna à Lévi, et la double part à Yosef, Yosef, il est remplacé par deux tribus, Menaché et Ephraïm. Donc, il a une double part. Et pourquoi? Parce que Parhaskamaim, parce que Yaakov a dit à Reuven, tu es beaucoup trop impulsif. Tu es un danger public. Si on donnait le pouvoir qu'a le roi ou le Kohen Gadol, tu pourrais faire beaucoup de mal parce que tu es trop impulsif. Donc, dire que c'est une bénédiction, ça nécessite un petit complément. Alors, la vérité, c'est que c'est une bénédiction. Pourquoi est-ce une bénédiction? Parce que il n'y a peut-être pas de bénédiction plus grande qu'on peut donner à quelqu'un que de lui dire où est sa place, lui dévoiler où est sa place. Le Gandvin a dit que dans le passé, au temps des prophètes, on allait consulter le Navi, le prophète, et il disait à chacun, ta place, c'est ici. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité. Dire à chacun où est sa place, c'est dire à chacun où il va pouvoir s'épanouir complètement et attribuer la, et apporter la contribution la plus grande qu'il puisse apporter au clan Israël, à la collectivité à laquelle il appartient. A priori, nous, aujourd'hui, on doit considérer que là où Hachem m'a mis, là où la Shgacha m'a mis, c'est là que je dois travailler. Hachem veut que je sois à cet endroit-là. Peut-être j'ai une proposition pour aller aider ailleurs, etc., jouer un rôle ailleurs, bon, ça c'est possible. Effectivement, donc Hachem t'envoie à ce nouvel endroit. Mais souvent, nous, on a de la difficulté parce qu'on peut aussi se raconter, non, mais là, je suis plus efficace, etc. Et Hachem veut qu'on soit à un certain endroit, il nous le propose, et si on accepte, si on ne comprend pas que c'est ça qu'il faut faire, alors il y a des circonstances qui peuvent nous y obliger. On peut y être obligé, pour des raisons médicales ou autres, d'aller à cet endroit-là où Hachem veut m'avoir, il veut que je sois à cet endroit-là. C'est tout un problème aujourd'hui parce qu'on n'a pas la certitude. Mais a priori, on doit se dire que, a priori, si je suis là, bon, ça veut dire que c'est là que je dois faire ce que j'ai à faire. Si Hachem veut m'envoyer ailleurs, il va déjà tirer les ficelles pour m'envoyer ailleurs. Donc Yaakov Avinu, dans ses brachot, il a dit à chacun où était sa place. C'était vraiment des brachot. Quand il est arrivé à Shimon et Lévi, vous vous souvenez, Shimon et Lévi, c'est ceux qui ont massacré la ville de Shrem parce que leur prince de Shrem avait violé Dina, la fille de Yaakov, leur sœur. Et Yaakov était très en colère contre eux. Alors, au début, ce qu'il a dit, c'est « Vous êtes complètement fous, vous allez exciter tous les peuples là d'alentour et ils vont tous nous tomber dessus. » Mais à la fin de sa vie, Yaakov, qui n'a plus peur maintenant, il n'y a plus ce problème-là, mais il dit toujours « Je ne veux rien avoir à faire avec eux. » C'est des assassins. Donc là aussi, c'est très dur. Un père qui dit à ses enfants, rien à voir avec vous.
On peut demander quelque chose.
Oui, c'est ça.
La différence entre Simone et Lévi, parce que finalement, Lévi, il reçoit une bracha et Simone, il ne reçoit rien. Même un territoire, il ne l'a pas.
Ce qui s'est passé, c'est que Yaakov Avinu, tu as raison, mais Yaakov, il les a mis sur le même plan. Mais par la suite, la tribu de Lévi, au moment du Chet à Hegel, eux, ils n'ont pas participé du tout à la faute du Hegel, et ils ont été même d'accord de tuer tous ceux qui avaient participé. Donc, quelque part, le fait d'avoir massacré beaucoup de monde indûment, ils ont été metaken, ils l'ont arrangé en tuant les gens qu'il fallait tuer. Et au contraire, Shimon, c'est la tribu de Shimon, c'est la tribu de Zimri, dont on a vu que c'est celui qui a provoqué Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez, c'est celui qui est venu avec la princesse Midianite et qui a dit à Moshe, est-ce que celle-là, elle est permise? Et Si tu dis que non, alors qui t'a permis à toi, Moshe, qui t'a permis ta Midianite à toi, Tsipora, finalement, c'était une Midianite. Alors, bien entendu, la réponse était... Il s'agit d'une situation qui date d'avant Matan Torah. Et puis, le problème, c'était un problème de conversion. Tsipora s'est certainement converti, exactement comme les Imaot. Je ne sais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là de se convertir, mais on dit d'Avram qu'il est le premier guerre, le premier converti, mais il s'est converti à quoi? Il a fait la Mila sur l'ordre d'Hachem. Est-ce qu'il s'est trempé dans un mikvé? J'en sais rien. Mais a priori, c'était ça le guiour. Donc, l'adhésion à ce moment-là valait probablement, l'adhésion aux valeurs, la vie, elle valait conversion. Alors que lui, Zimri, c'est après Matan Torah et il veut la prendre telle qu'elle, comme étrangère, il ne veut pas du tout la convertir.
Rav, s'il vous plaît, c'est Odile. J'ai une question également. Vous avez parlé de que Moshe a fait comme Yaakov pour faire les remontrances à la fin de sa vie. Mais pourquoi Yaakov...
J'ai d'ailleurs pas terminé, oui. Allez-y.
Oui, c'est ça. Pourquoi Yaakov les a-t-il fait à la fin de sa vie?
C'est ça, je vais terminer. Et donc, la question qui se pose, qu'on peut appeler aujourd'hui question d'Odile pour les besoins de la cause, mais la question, c'est pourquoi Yaakov a attendu si longtemps. Alors, Chazal dit une chose assez terrible. Chazal dit que Yaakov avait peur que s'il, c'est la Gemara qui dit ça, que s'il avait donné, il avait dit à Reuven ce qu'il lui a dit en temps réel, il avait peur que Reuven s'en aille chez Esav. Pensait que Reuven allait rejoindre Esav. Le nom d'association, c'est association des premiers-nés lésés par les petits frères. Bon. Esav, premier-né, lésé par son petit frère Yaakov, qui lui a piqué les brachotes et la prora. Enfin, bon. Et les Reuven, voilà, lésé par toujours le petit frère, toujours par le même Yaakov. D'accord. Donc, vous entendez bien, Yaakov pensait que il y avait un risque que Reuven parte chez Esav.
Non, mais il leur a laissé en fait le temps de faire teshuva, peut-être.
Non, il leur a sûrement laissé le temps de faire tshuva, mais la Torahara, elle ne demande pas qu'on laisse le temps. Au contraire, la Torahara, c'est une aide à la tshuva. La Torahara, c'est pas un jugement. La Torahara, c'est justement c'est un rappel. Aujourd'hui, on dit, comme ça se dit, rappel à la loi. Je te rappelle, Torahara, ça veut dire, c'est le même mot qu'on utilise pour dire une démonstration mathématique. Ochacha. C'est une démonstration. Je te fais la démonstration. Pour ça que je traduis par remontrance et pas par reproche. Je te remontre la halakha. Je te redis quelle est la halakha pour que tu vois bien que c'est, ce que tu fais n'est pas conforme à la halakha et que tu fasses tshuva. Donc, c'est la Torah, on ne va pas laisser le temps de faire tshuva, au contraire, on va l'aider. Donc, très bien. Pardon?
On le braque en faisant Torah, on le braque. Enfin, je ne sais pas. Braque. Ensemble.
Ça, c'est une grande question, savoir. C'est une mitzvah de la Torah de faire la Torah. Mais la Gemara, elle dit que. Il n'y a pratiquement personne qui sait faire la Torah comme elle doit être faite. Et personne, sauf Rabbi Akiva, qui sait recevoir la Torah comme elle doit être reçue. C'est la fameuse Mara qui dit qu'en général, quand tu viens faire la Torah à quelqu'un, il te dit, au lieu de regarder la paille qu'il y a dans mes yeux, regarde plutôt la poutre qu'il y a dans les tiens. C'est une formulation qui ensuite a fait des petits ailleurs, mais c'est dans la Gemara. C'est ça, c'est très difficile la Torah. Mais la mitzvah, elle est de faire cette Torah. Normalement, les gens devraient entendre que la Torah, elle est faite pour mon bien. A priori, on devrait attendre de quelqu'un qui m'aime, qui s'il me voit me tromper dans la halakha, qu'il me fasse la Torah, qu'il me fasse des remontrances. Vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui, au lieu de cela, vont se braquer. C'est pour ça qu'on prend des mesures, on prend des précautions pour faire la Torah. Et vous pouvez lire dans ce que je vous ai dit sur Yaakov, que Yaakov craignait que Reuven ne se braque et qu'il aille chez tonton Esav. Comprenez, aller chez Esav, c'était aller chez quelqu'un qui avait aussi quelque chose à vendre. Esav, c'est quelqu'un dont la tête est au moins équivalente à celle de Yaakov. C'est vrai que ce n'est pas sa tête qui gouverne en général son corps, mais la tête d'Esav, c'est une tête qui va d'elle-même dans Marat Amarpella. Quand Hushin Ben Dan lui coupe la tête au moment de l'enterrement d'Yaakov, la tête d'Esav, elle roule d'elle-même, elle va dans Marat Amarpella. Ça veut dire qu'elle est allée là où est sa place. Pas le corps, mais la tête d'Esav. Donc Esav, il avait des choses à vendre, des idées à vendre, et il avait des choses très importantes, très séduisantes aussi, parce que c'était quelqu'un qui allait imposer ses valeurs. Si on regarde le monde aujourd'hui, pour nous, Esav, c'est la quintessence de tous les peuples. Pour nous, tous les peuples, les 70 peuples. Il y a 70 peuples et en tête, il y a Esav et Ishmael. Esav d'abord et Ishmael après. Bien qu'Ishmael soit plus âgé. C'est son beau-père d'ailleurs. Mais Esav, c'est quelque chose de très important. Et alors voilà, donc Yaakov, lui, il a attendu la fin de sa vie. La Gemara dit qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il faut attendre, effectivement, parce que c'est insupportable pour celui qui a reçu les remontrances de croiser celui qui les lui a faites. C'est une chose. N'oubliez pas, Rabbi Tarfon il dit, ce que je vous ai dit, que la seule personne qui vous aime quand vous lui avez fait la Torah, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire, au temps des Tanaïm, il n'y a personne qui est capable de recevoir, d'après Rabbi Tarfon, personne n'est capable de recevoir la Torah comme elle doit être reçue. Vous voyez la difficulté. Alors maintenant, la question, c'est, alors, ok, mon cher Abouni, prends modèle sur Yaakov, mais qu'est-ce qu'il craignait? Que qui allait s'en aller? Yaakov, il avait une raison. Et si mon cher Abbé nous prend modèle sur lui, c'est qu'il pense qu'il faut s'inspirer de Yaakov, mais si lui, il n'a rien à craindre dans sa Torah. À la fin de sa vie, mon cher Abbé nous va faire aussi des Torahot. Il va aussi faire des reproches aux différentes tribus. Et donc là aussi, il y aurait eu un. Mon cher Abbé nous a des questions, des choses à dire, et peut-être la même chose que Yaakov, c'est-à-dire il est à craindre que des gens s'en aillent, quittent le judaïsme, si on peut parler comme ça. Donc il faut faire très attention. Il faut veiller à ne, dans toute la mesure du possible, à ne pas braquer les gens. Mais on ne peut pas se défiler, si vous voulez. Le problème, c'est un sujet très important traité dans la Gemara, savoir jusqu'où il faut aller faire la Torah. Jusqu'où ça veut dire, la Gemara, elle dit, plusieurs opinions, certains disent, tu dois aller jusqu'à ce que l'autre se mette en colère contre toi. S'il se met en colère, tant pis, voilà, tu dois risquer qu'il se mette en colère contre toi, mais éventuellement il te donne des coups, même. Ce qu'il ne veut pas recevoir la Torah que tu veux lui donner. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit efficace. Alors, on a l'habitude de dire un principe, je crois, qui circule au nom du Khatam Sofer, mais c'est peut-être d'autres qui l'ont dit avant lui, qui disent que de la même manière qu'il y a une mitzvah de faire des remarques quand elles peuvent être entendues, de même, il y a aussi une mitzvah de ne pas les faire quand elles ne peuvent pas être entendues, quand on pense qu'elles ne seront pas entendues. Et à part ça, il y a un problème. C'est, il faut faire une différence entre les interdits de la Torah et les interdits mis des Rabbanan. Certains disent que sur ce qu'on a dit là, qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est pour un Doraïta, pour les interdits de la Torah. Les interdits des Rabbanan, il ne faut pas. Si on pense que ça ne va pas être entendu, très souvent, vous allez rendre la personne mésite. Elle faisait les choses par manque de réflexion. Là maintenant, elle va transgresser en tout étant en connaissant parfaitement la situation. Donc, il faut faire très attention. Donc ça, c'est mon cher Rabbeinu qui fait ces remontrances là et qui voilà, il les fait à la fin de sa vie. Pour les raisons qu'on a dites. On va voir la façon dont le Netziv lit ce début de Sefer Dvarim. Il dit voilà. Lui dit Elé Advarim, ça porte jusqu'à Parashat Vayelech. Ben, ça ne va pas inclure à Zinou. Vous êtes à Bracha, mais jusque-là, c'est les Torahot. Il dit, Lo ayu kol advarim arabim ahem bemamad echad velo biyom echad. Bien entendu, tout ce qui est dit là n'a pas été dit en un seul jour et en un seul lieu. Ella, ikil et aham bekama amim, kama permim. Il a rassemblé les gens à plusieurs reprises. Védiber Ezeinyan Isa Sefer. Et à chaque fois, il a dit un des sujets qui vont être traités dans ce Sefer. Et le Passouk nous explique qu'une fois, il a rassemblé les gens Bamidbar. Une fois dans la Arava, une autre fois à Moulsouf, etc. Par exemple, Hatserot, c'est une ville. Ever Yarden, c'est une ville en Jordanie qui s'appelle Hatserot. Et ce n'est pas le Hatserot qu'on a mentionné dans les pérégrinations. À la fin dans Parchat Massé, dans la liste des pérégrinations d'Ebné Israël, il y a un endroit qui s'appelle Hatserot, ce n'est pas celui-là. Ensuite, il leur explique, ça a duré 11 jours. Au début, Ala Bamarchava, Sheyou Nichnasim Leretz Israël Maher. Au début, la pensée divine, c'était que l'Ebné Israël entre rapidement. en Eretz Israël. En 11 jours, on pouvait faire le chemin. Ils auraient pu entrer, dit-il, derer Seir, velo hayu me'akvim bnei Seir az, shenafal pachad ube'ala shel kriyat yam suf al alufei Edom. Et si on était entré à ce moment-là en Eretz Israël, on n'aurait pas dû faire la guerre. Parce que même Seir, même les gens de Seir, les gens de Sav, personne ne se serait opposé. Parce que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont franchi la mer, comme on le dit dans la Shira, dans Parshat Beshalach, Aloufei Edom, les princes de Edom, de Moab, etc. Tous ces gens-là ont été complètement pétrifiés. Les gens étaient complètement sidérés de voir comment les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, comment ils ont franchi la mer. Personne n'aurait osé bouger. Ça, la guerre, toute la guerre de Yoshua, etc., avec des conséquences, disons, les Omotaolam encore aujourd'hui nous font des reproches, mais vous avez massacré les populations de Canaan, etc. Tout ça, ce n'était pas nécessaire. Si on était entré tout de suite, on serait entré comme dans du beurre. Ne se serait opposé au Bnei Israël. Donc, toutes ces pérégrinations, pendant tout ce temps-là, il faut savoir, pendant 40 ans, l'idolâtrie en pays de Canaan, elle s'est développée, elle a envahi le pays. Il y avait de l'idolâtrie en profondeur, tout était imbibé d'idolâtrie. Donc, quand on est venu, on a dû éliminer certaines choses, mais il est quand même resté des traces. Il a fallu éliminer des populations. Et finalement, le peu qui est resté, a duré des siècles, et finalement, le premier Beth Amikdash, il a bien été détruit à cause de l'idolâtrie. Tout ça, c'est à cause des 40 ans. Pendant 40 ans, d'abord, nous, on n'était plus à la même hauteur. Les gens, le fameux Dordéa, ils n'existaient plus. Ils sont tous morts à la suite des Maraglim. Au contraire, l'idolâtrie s'est renforcée. C'est un vrai désastre. Ensuite, Netziv fait remarquer, si vous avez le texte devant vous, dans le pasuk Gimel, Vaï Barbaim Shana, la 40e année, Bashti Asar Chodesh, Bechad la Chodesh, Diber Moshe el Bnei Israël, Kechol Asher Tziva Hashem, Oto Alehem. Moshe a parlé au Bnei Israël, comme Hachem le lui avait ordonné à lui de parler à eux. Je fais exprès de traduire comme ça parce qu'il y a une énorme redondance. Je veux dire, Rol Hacher Tziva Hachem. Jamais on nous dit, quand c'est marqué, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. On ne dit pas les morts à l'Ehem ou les morts à l'Ehem. On dit pas, on n'a pas besoin de le redire, on sait bien à qui on parle. Pourquoi avoir ajouté Oto Alehem? L'ordre a été donné à lui, Moshe, concernant les Bnei Israël, évidemment, de qui on parle. C'est évident. Alors, le Netziv s'est arrêté là-dessus. Et il dit effectivement, Oto Alehem, c'est en trop, c'est mieux tard. Kavana. En vérité, la raison pour laquelle le verset est écrit comme ça, il faut pour ça revenir un peu sur ce qui est dit dans le Sefer Shemot et à d'autres endroits. Le tzivouï, l'ordre, la chair, va partout où dvarim shayalo al Torah shebichtav. Ici, Hachem a ordonné les Netzim, ça veut dire qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu ce qui est dit explicitement, et en plus, il a dit toutes sortes d'autres choses oralement. Donc, Asher Tziva, c'est ce qui est écrit, plus, si vous voulez, la Torah Shebaal Peh qui va avec ce qui est écrit. Je vous ai dit, les Netzim, ils considèrent que le Sefer Dvarim, c'est un Sefer dans lequel, quand on lit le verset, il faut le lire en même temps à deux niveaux. C'est-à-dire, Nichlal Beze Alachot Amekubalot, donc dans ce que Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu, il y a toutes sortes d'Alachot qui étaient connues, en fait, comme la loi le dit dans Maseret Brachot. Ça, c'est des choses que Moshe Rabbeinu avait déjà enseignées de El Moed au tout début au Bnei Israël. La Gemara, dans la Roumine, elle rapporte, je crois que vous avez déjà raconté ça, comment est-ce que Moshe Rabbeinu enseignait. Vous vous souvenez, vous avez rapporté ça quand, pour expliquer que Moshe Rabbeinu pensait pouvoir entrer en Eretz Israël comme simple personne et que Hachem lui a montré que pas du tout, qu'il n'était pas du tout prêt à cela, en fait c'était insupportable pour lui. Lui, alors là ici, Nichnas Aaron, après qu'Hachem ait parlé avec Moshe, Moshe sortait et entrait à Aaron et Moshe enseignait à Aaron. Ensuite, il faisait entrer les fils d'Aaron, et ensuite les Nessim, puis ensuite tout le peuple. Ici, ce que Moshe enseignait, en vérité, c'est enseigner ce qui avait été entendu au Sinaï, ce qui a été ensuite répété dans Ohel Moed, dans le Mishkan. Seulement, ce qu'il leur a apporté, il leur a apporté des choses, des halakhot toutes faites, en quelque sorte. On a dit en le El Moed, il leur a donné des lois, mais il n'a pas du tout dit comment on déduisait les lois des versets. C'est-à-dire, toutes les Yugimel Midot, les 13 de Menuti, l'explication de la Haggadah, ça, il ne leur a pas donné. Il leur a dit, voilà, on fait comme ça. Et sans les explications, sans de déduire du verset, c'est là. Alors maintenant, ce que Moshe va leur dire maintenant, on va dire qu'il est aux bières, etc., c'est justement ça qu'il va leur donner. Il va leur donner ici la façon de passer d'un verset à la halakha à partir de ce verset. C'est souvent, c'est toute une construction. Ça passe par la Mishnah, la Gemara, jusqu'à la halakha. La halakha, on ne la déduit jamais du texte même de la Torah. Alors, il donne un exemple. Il vous donne des exemples. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un Tana, c'est un maître de la Mishnah. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait tout étudié, on dit qu'il avait aussi étudié ce qu'on appelle des Havayot de Abaye Verava. Les grosses discussions qu'il y a dans la Gemara, souvent, c'est des discussions qui ont lieu entre Abaye et Rava, ou leurs élèves, leurs décès. Donc, c'est les grosses questions fondamentales à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les Amoraïm, c'est pas lui, c'est un Tana, c'est les Amoraïm. Les Tanaïm, c'est les maîtres de la Mishnah, et les Amoraïm, les maîtres de la Gemara. C'est des époques différentes. Et alors, dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait les questions d'Abaye et Rava, ça paraît un peu spécial, puisque ces questions, elles vont être soulevées et débattues que des siècles plus tard. Parce que, en vérité, ce que ça veut dire, c'est que il y a des choses que les gens savaient. Ça, voilà, c'est comme ça. On connaît la halakha. Mais on ne sait pas la déduire. Et c'est pour ça qu'il y a des fois la Gemara demande à un Tana, mais d'où c'est ça? Alors il essaie de se défendre, et puis eux ils discutent, mais finalement, c'est eux qui disent. Ouais, la vraie source. Il y avait ce qu'on a reçu par tradition, et puis à la façon dont on relie le texte de la Torah écrite avec ce qui est Torah oral, en fait. La Gemara, en fait, elle dit, je pense que ça c'est un peu moins connu, mais peut-être vous connaissez. La Gemara demande de Nedarim, elle dit qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, quand il voulait donner les deuxièmes tables, il a dit à Moshe Rabbeinu, taille pour toi deux pierres que tu vas tailler en table. Prends des pierres et tu les tailles pour en faire des tables sur lesquelles, dit Hachem, je vais écrire ce qui était sur les premières tables. Et alors la Gemara, elle dit que en fait la Torah, elle a été donnée seulement à Moshe et à ses descendants. D'où est-ce qu'on le sait? Ben justement de ce verset. Le verset dit Psol lecha, et la Gemara fait une dracha, Ktav lecha, ma sulatan shelcha, af ktavan shelcha. Les tables, elles vont être pour toi. Pourquoi? De la même manière que les déchets, quand tu as taillé la pierre pour en faire les tables, il y a des déchets de pierre. Ces déchets de pierre, ils sont à toi. De la même manière, ce qui sera écrit sur les tables, c'est aussi à toi. C'est une dracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, bon, elle est chez Moshe. Elle n'est pas chez les Bnei Israël. Mara dit Moshe nahag bahen nahag bahen. La Gemara dit Moshe a généreusement donné la Torah au Bnei Israël. Il aurait pu la garder pour lui. Sa générosité était telle qu'il l'a donnée au Bnei Israël. La Gemara là-bas, elle objecte, elle dit mais il y a un pasouk où Moshe Rabbeinu dit lui-même Oti tziva Hashem le lamed etchem, hukim u mishpatim. Rabbeinu dit que Hashem m'a ordonné de vous enseigner la Torah. Donc, Moshe était obligé, ce n'est pas de la générosité, il n'avait pas le choix, Hashem lui a ordonné. Marel répond non, même ça, il faut lire le verset de manière suivante. Oti tziva vani lachem. Donc, il faut partager le verset. Ve'otit siva Hashem, etc. Le lamed. Otit siva vani lachem. Et moi, je vais vous le donner. Hashem m'avait donné les ordres de faire respecter la Torah. Et moi, j'ai décidé de vous la donner. C'est-à-dire, en fait, donner ce que j'appelle Pitpula Baalma, ça veut dire toute la discussion sur la Torah. Toute la chokma, toute l'intelligence qu'il y a dans l'écriture de la Torah, c'est-à-dire dans la graphie elle-même, la forme des lettres, c'est déjà toute la chokma. De savoir que, par exemple, dans la Torah, certains mots, un mot qui peut se lire « auto », par exemple, on ne sait pas s'il faut l'écrire « Aleph, Vav, Tav, Vav » ou bien « Aleph, Tav, Vav »,« Malé » ou « Chasser ». Et donc, tout ça, les mots, les lettres, tout ça, c'est fait pour, à partir de règles, règles de grammaire, de règles d'herméneutique, etc., ça permet de déduire toutes sortes de choses. D'accord ? Par exemple, le nombre de parois que doit avoir une soukha, c'est construit à partir du fait que il y a plusieurs occurrences du mot soukhot dans la Torah. Et certaines fois, soukhot est écrit samer vav, kaf. D'autres fois, c'est écrit sans vav. Que ça, c'est le vav à la fin, entre kaf et le taf. Donc, il y a avec ou sans vav. Samer kaf, vav, taf. Ou bien kaf, taf, c'est tout. Donc là, on calcule combien d'occurrences avec vav, combien sans vav, etc. Est-ce qu'avec un vav, il faut l'entendre comme un pluriel? Donc ça vaut deux. Quand il n'y a pas de vav, ça vaut seulement un. Donc on apprend qu'il y a ou bien quatre parois ou trois parois pour faire une soukha. Tout ça, ça dépend y compris de la graphie, de la forme des lettres, etc. Ensuite, toutes les analogies, tous les principes avec lesquels on travaille le texte pour en tirer ce qu'on peut en tirer, qui est en tirer ce qu'on sait souvent par ailleurs. La halakha, on la connaît, mais on ne sait pas comment l'ancrer en quelque sorte dans le texte. C'est mon cher Rabbeinu l'a laissé, il l'a donné au clan d'Israël parce que c'est à partir du moment où tu vas ancrer une halakha dans le texte, la richesse du texte va te permettre d'étendre cette halakha ou de l'appliquer cette halakha à d'autres situations en prenant en compte l'ancrage. C'est comme si cet ancrage y donnait un supplément de vie à la halakha qu'on avait devant nous. Alors, dans effectivement certains endroits, Moshe en a dit plus qu'à d'autres, etc. Plus enseigné plus. Est-ce qu'il a donné les principes généraux? Là, il est entré dans les détails, etc. Au début, il était question que Moshe n'enseigne ce travail-là une partie du clan. Pas tout le monde, parce que tout le monde n'était pas arrivé au niveau où il pouvait entendre et comprendre tout ce travail-là. Alors, c'est pour ça que c'est marqué « Oto Alehem ». C'est-à-dire qu'en fait, Moshe, il a reçu d'abord Tiva Oto, Hachem lui a donné à lui, et seulement après, quand il a jugé que les Bnei Israël étaient vraiment à la hauteur, Alehem, c'est-à-dire à tout Israël. Je peux expliquer encore, je veux pas, il en parle très très longuement. Il explique que quand Moshe Rabbeinu a dit Oti tziva Hashem, Hashem m'a ordonné de vous enseigner, etc. Alors le Yerushalmi, dans la Gemara dans Yerushalmi, on dit Yesh dvarim she'amarli beini leben atzmi. Il y a des choses, dit Moshe Rabbeinu, qu'Hachem m'a dites pour moi. Yesh dvarim she'amarli lomar lebanav. Il y a des choses qu'Hachem m'a dit de dire à ses enfants. Et cette histoire, que ça a duré 40 ans, c'est que Chazal disent au moment des 40 ans, quand il y a eu cette xéra, quand Hachem a décidé qu'ils allaient se balader encore pendant 40 ans, vous vous souvenez, ces 40 ans correspondant aux 40 jours de l'exploration. Ils ont mis 40 jours pour l'exploration, les explorateurs, pour apporter le désastre. Alors, ils ont été punis Yom Lashana, c'est-à-dire, en fait, pour chaque jour, une année. Et là-bas, c'est marqué « Beshat gzera shel arbaim shana nigzar galut al Israël ». À ce moment-là, il y a eu un décret que les Bnei Israël seraient exilés. C'est pour ça qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Et ce inyan de galut a entraîné l'obligation de l'Elamed de ta Torah al piderech higayon ou pilpul. Ils ont été obligés d'apprendre la Torah, ou d'enseigner la Torah, en utilisant toute la réflexion, etc., et pas simplement la transmission. Pas simplement, comme c'est marqué, Kadesh li, sanctifie pour moi, etc. Là, on va dire, non, il faut entrer dans le détail, il faut que les Bnei Israël connaissent tout cela. Il fallait aussi que les Bnei Israël sachent comment se conduire avec le Beth Amikdash et aussi avec l'absence de Beth Amikdash. Donc, la halakha, elle s'est élaborée à ce moment-là dans le désert. Donc, quand ils sont arrivés à Arvot Moab, Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël, il leur a expliqué tout le galout, Shenigzar Aleem, toute la notion d'exil, et qu'il leur a expliqué que pour cette raison, Uchachim lekabel ol Torah abezé aderech. Il leur a expliqué, vous êtes obligés d'accepter la Torah de cette manière-là. Sorte que la Torah ne s'oublie pas dans le clan d'Israël. Ça veut dire que si on avait enseigné simplement au Bnei Israël, ça c'est permis, ça c'est interdit, etc. Ben, au bout du galout, on l'a oublié. Parce que c'est comme on leur a expliqué comment on peut produire la halakha à partir du texte, que c'est un effort permanent. Donc, eux, ils ont été habitués à cet effort permanent. Et donc, ça, ils ont pu le continuer dans le galout. Sinon, si on avait donné simplement un Shulchan Aruch, le code uniquement, on aurait oublié, évidemment. Donc ici, il y a tout un travail qui est déjà fait au niveau de la façon dont Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah pour que la Torah ne s'oublie pas durant le Galout. Quand Rashi a dit que Be'er et la Torah, c'était 70 langues, le Netziv dit, d'où est-ce qu'il l'a su, Rashi? C'est marqué dans la Gemara. C'est une Gzera Shava, c'est-à-dire on fait une analogie avec les grâce à deux versets clés, le mot Be'er. De même que Yoshua, quand ils ont passé le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, il a pris des pierres du Jourdain et sur les pierres en question, il a écrit la Torah en 70 langues. De la même manière, alors, à cause du mot BR, on a appris la Gemara dit 70 langues aussi chez Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce que nous dit aussi le Midrash. Mais il dit « Aval Barour, Sheze Pshat Amikra ». Il est évident que ce n'est pas le pshat, ce n'est pas le sens au vide du verset qui dit que Moshe il a clarifié la Torah. Et la Kavana Shnia, c'est un deuxième sens du texte. « Vedarash, Sheya, Gamze, Bichlal, Be'erat, Moshe ». Et la Drasha, elle dit que ça aussi, ça fait partie, ce que Drashi dit, ça fait aussi partie de l'explication de la Torah par Moshe. Aval, lo ayat nitzrach ze, el abishvé lo mota olam, velo l'Israël. Or, ça, c'était nécessaire que pour les goïms, c'est les Bnei Israël, ils ne parlaient pas 70 langues. Mais kan ikara biur aya l'Israël. Alors, ça veut dire, le sens, au vu du texte, Moshe a expliqué la Torah aux Bnei Israël. Je n'ai pas besoin de te dire comment, il leur a parlé dans leur langue. Valze Ochichan Berov Dvarim. Et c'est dans cette langue-là qu'il leur a fait les remontrances. Et la pirouche bier, le mot bier, il faut l'entendre comme on l'a appris dans Sifri, dans le Midrash. Vera Torah Zot, Amar Lahem Kvarani Samuch Lemita. Il leur a dit voilà, je suis à la veille de mourir. Si quelqu'un a entendu un verset et qu'il l'a oublié, qu'il vienne vers moi pour le répéter, pour que je lui rappelle. Si quelqu'un a entendu toute une paracha et l'a oublié, qu'il vienne, je vais la lui répéter. Mais ça aussi, il faut expliquer. Im shachach pasuk ou parasha, alors sefer Torah amunach yavo viire. La question c'est, quelqu'un a oublié un verset, mais le sefer Torah ils étaient, les sifrei Torah ils étaient là. Moshe Rabbeinu a écrit 13 sifrei Torah, un pour chaque tribu et un qu'on a mis dans le haron. Tu as une question sur un verset ou une parasha, bah regardez dans le sefer Torah, il est là, c'est consultable. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chez Moshe pour qu'il vous le rappelle? Qu'est-ce que ça veut dire, Maï Shanena? Le tout, Eno Mouvan? Pourquoi c'est répété, Pasouk, Paracha? Quelle différence il y a entre Pasouk et... Pourquoi vous donnez l'enseignement? Si tu as oublié un Pasouk, viens. Si tu as oublié une Paracha, viens. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un Pasouk et une Paracha? Mais il faut dire. Ce que dit le Rambam dans son introduction à son commentaire sur les Mishnayot, il amène cette braïta, ce texte-là, et mais il l'amène dans la forme suivante. « Kol sheshachach halakha, achat yavo vishane, kol sheyesh lo lefaresh yavo vishane. » Tout celui qui a oublié une halakha, qui vienne, et je la lui répéterai. Et tout celui qui a un commentaire à faire, qu'il vienne, qu'il me le soumette en quelque sorte. Et là aussi, dit le Netziv, il y a aussi une, en fait, il y a une faute d'impression. il faut lire Kol Sheshachach Parasha Achat Yavo Bishani. Tout celui qui a oublié, non pas une halacha, mais une parasha, Vimken Tzarech Liyot Besifri Shelfaneinu Misheshama Halacha Achat Ushlacho. Donc le Sifri, il devrait dire halacha. Vinyan Shna Dvarim Elu. En fait, pourquoi ces deux choses? Parce que le Sifri, il pense, c'est que Moshe Rabbeinu l'avait déjà enseigné au Bnei Israël la source de la halacha, à partir des versets. Et il a expliqué comment on interprétait le verset pour que ça donne la halacha. Mais peut-être que quelqu'un a oublié une halacha avec sa source dans la Torah, c'est ça. C'est pas quelqu'un a oublié une halacha ou bien un verset, non. Quelqu'un a peut-être oublié où dans la Torah il y a la source de chaque halacha. Ou bien quelqu'un qui a entendu une paracha et il ne voit pas très bien à quoi elle sert. Bon, il viendra, qu'il vienne et que je lui dirai. C'est ça que mon cher a dit à la fin de sa vie. C'est ça qu'il leur a dit maintenant qu'il vienne. Bon, on va rester là. C'est juste pour que vous voyez que ce que mon cher Rabbeinu a fait à la fin de sa vie avec, donc, ce qu'il a enseigné à la fin de sa vie au Bnei Israël, c'est justement les moyens de faire face. Parce que tant que mon cher Rabbeinu était là, qu'on avait un problème, on allait chez Moshe, Moshe interrogeait Hachem. Yoshua, à la fin, quand Yoshua est arrivé au pouvoir, Il a oublié des choses et il s'est dit, c'est pas grave, je vais aller demander à Hachem. Mais Hachem lui a dit, c'est fermé maintenant. Il n'y a plus accès. Cet accès que Moshe avait, plus personne ne l'a. Donc, il faudra en passer par Urim Vetumim. Il y a des procédures avec lesquelles on peut interroger Hachem. Mais la procédure de l'interroger directement, ça n'existe plus. Ça n'a existé que pour Moshe. Et donc, du coup, il faut équiper les Bnei Israël en tenant compte de ce que pendant le Galout, ils vont avoir des problèmes, ils risquent d'oublier, etc. Pour qu'on n'oublie pas, il faut enseigner avec toute la machinerie, en quelque sorte, qui permet de déduire la les comportements à partir du texte. Et pas simplement les comportements directement, ça peut s'oublier. Voilà pour ce soir. Qu'est-ce que c'est ?